Bonjour, ici Chantal Hébert. Je suis heureuse de vous retrouver sur Globule Radio 90.5 FM, comme tous les jours, pour écouter la suite du livre Les 8 montagnes de Paolo Cognetti. Résumé de la deuxième partie du chapitre 10. Piero quitte définitivement la ville de Turin avant de partir au Népal à l'automne pour y tourner des films documentaires. Cet été-là, il s'installe à la Barma. À l'alpage, les affaires de Bruno ne tournent pas du tout. Les deux garçons partent en montagne comme dans leur enfance. Piero raconte à Bruno que les montagnes là-bas, c'est-à-dire dans l'Himalaya, c'est comme de contempler des temples de l'Antiquité entiers. Chapitre 11. Première partie. Anita naquit en automne, comme les montagnards. Je n'étais pas là cette année. Au Népal, j'étais entrée en contact avec le monde des organisations non gouvernementales et collaborais avec quelques-unes d'entre elles. Je tournais des documentaires dans les villages où elles construisaient des écoles ou des hôpitaux, lançais des projets pour l'agriculture ou le travail des femmes, et installais parfois des camps pour les réfugiés tibétains. Tout ce que je voyais n'était pas forcément pour me plaire. Les directeurs de Katmandou n'étaient rien d'autre que des politiciens de carrière. Mais en montagne, je croisais toutes sortes de gens, des vieux hippies aux étudiants en service civique international, des médecins bénévoles aux alpinistes qui, entre deux expéditions, s'arrêtaient pour travailler sur les chantiers. Même si cette humanité n'était pas à l'abri des ambitions et des conflits de pouvoir, elle ne manquait pas d'idéalisme. Et au milieu des idéalistes, moi, je me sentais bien. J'étais dans le Mustang en juin, un haut plateau aride aux confins du Tibet, fait de petites maisons blanches cramponnées à la roche rouge. Quand ma mère m'écrivit pour me dire qu'elle revenait tout juste de Grana, où elle avait découvert que Lara était enceinte de 5 mois. Elle se sentit aussitôt rappelée à son devoir. Pendant tout l'été, elle m'envoya des comptes rendus qui avaient tout l'air de rapports médicaux. En juin, Lara s'était tordu la cheville quand elle était au pré, et elle avait boité pendant plusieurs jours. En juillet, avec sa peau si pâle, elle avait eu une insolation en faisant les foins. En août, même si ses jambes lourdes et son dos la faisaient souffrir, elle descendait encore les tomes avec la mule 2 fois par semaine. Ma mère lui ordonnait de se reposer. Lara ne voulait rien savoir. Quand Bruno proposa de prendre quelqu'un pour la remplacer, elle protesta en disant que les vaches aussi étaient enceintes et qu'elles ne faisaient pas tant d'histoire. Ça la détendait même de les voir si peu inquiètes. Moi, pendant ce temps-là, j'étais à Katmandou en pleine saison de la mousson. Chaque après-midi, la ville était flagellée par une tempête. Alors, son débit insensé de mobylettes et de vélos s'arrêtait. Ses hordes de chiens errants se réfugiaient sous les hangars, ses rues se transformaient en fleuves de boue et d'ordures, et moi, je m'enfermais dans quelques cybercafés, devant un ordinateur vétuste, pour lire les dernières nouvelles. Ma mère m'étonnait. Je n'aurais su dire laquelle des deux m'impressionnait le plus, entre Lara qui s'apprêtait à accoucher à l'alpage et cette autre femme de 70 ans qui montait lui rendre visite à pied et une fois par mois l'accompagnait à l'hôpital. L'échographie du mois d'août établit sans l'ombre d'un doute que c'était une fille. Lara continua encore de sortir les bêtes quand son ventre ne lui permettait plus de faire rien d'autre que marcher devant le troupeau et s'asseoir sous un arbre pour le regarder. Le dernier dimanche de septembre, avec leurs robes brossées et lustrées, leurs colliers de cuir marquetés et leurs sonnailles de fête, les vaches descendirent dans la vallée pour une solennelle parade de fin de saison. Bruno les installa dans l'étable qu'il louait pour l'hiver et il ne restait dès lors plus qu'à attendre. Il devait avoir fait un calcul de montagnard pour que Lara accouche peu de temps après, comme s'il s'agissait là encore d'un travail saisonnier. Je me rappelle où j'étais, le jour où ma mère m'annonça la nouvelle. Dans le bas du Dolpo, au bord d'un lac, qui ressemblait à s'y méprendre à un lac alpin, encerclé de bois de sapin rouge et de petits temples bouddhistes, avec une fille que j'avais rencontrée à Katmandou. Elle travaillait dans un orphelinat de la ville, mais nous avions pris quelques jours de vacances pour être seuls en montagne. Dans un refuge sans poêle, perché à 3500 mètres d'altitude, dont les murs n'étaient guère plus que des planchettes de bois peintes en bleu. Nous avions uni nos deux sacs de couchage et nous étions serrés dedans. Par la fenêtre, j'observais le ciel étoilé et les cimes des sapins pendant qu'elle dormait. Au bout d'un moment, je vis surgir la lune. Je restais longtemps éveillée à penser à mon ami Bruno qui était devenu père. Quand je revins en Italie en 2010, je trouvais le pays plongé dans une crise économique grotesque. Milan annonçait la couleur dès son aéroport à l'abandon, avec 4 avions sur des kilomètres de pistes d'atterrissage et les vitrines des grands couturiers qui clignotaient dans les boutiques vides. Dans le train qui m'amenait en ville, réfrigéré par l'air conditionné qui soufflait ce soir de juillet, je ne vis que terrain vague, chantier, grues gigantesques, gratte-ciel aux silhouettes bizarres prendre forme à l'horizon. J'avais du mal à comprendre comment les journaux pouvaient écrire que les caisses étaient vides, quand à Milan comme à Turin, je notais une frénésie immobilière digne des années fastes. Retrouver les vieux copains fut comme faire la tournée des hôpitaux. Les maisons de production, les agences publicitaires et les chaînes télévisées avec lesquelles j'avais moi-même travaillé mettaient la clé sous la porte et beaucoup se retrouvaient assis dans leur canapé à se tourner les pouces. À 40 ans ou presque, ils en étaient réduits à faire des petits boulots à la journée ou accepter de l'argent de leurs parents retraités. « Mais regarde donc dehors, me dit l'un d'eux. Tu ne vois pas qu'ils poussent des immeubles de partout ?» Qui est en train de nous voler ce qui devait nous revenir? Où que j'aille, je respirais cet air de dépit et de colère, ce sentiment de génération lésée. J'étais soulagée d'avoir déjà en poche le billet d'avion avec lequel je repartirais. Quelques jours plus tard, je montais dans un autocar pour la montagne, en changeais à l'embouchure de la vallée et descendis devant le bar où, autrefois, ma mère et moi allions téléphoner, même s'il y avait bien longtemps que notre cabine rouge n'existait plus. Je fis le sentier à pied, comme avant. Le vieux chemin muletier coupait les zigzags de la route goudronnée et était englouti par les ronces et les feuillages, si bien qu'au lieu de vraiment le suivre, je me frayais un chemin de mémoire à travers le bois. Quand je ressortis, j'eus la surprise de voir qu'à côté des ruines de la tour, une antenne relais avait fait son apparition. Et plus bas, dans la gorge, une digue de ciment arrêtait le cours du torrent. Le petit réservoir artificiel était rempli des bouts de la fonte. Un excavateur les filtrait et les déversait sur la rive, détruisant avec ses chenilles et son sable vaseux les prés où Bruno gardait les vaches quand il était enfant. Puis, comme toujours, je dépassai Grana et eus l'impression de laisser tout le poison derrière moi. Comme sur la Napurna, quand on entre dans la vallée sacrée. Sauf que là, il n'y avait pas d'ordre religieux. C'était l'oubli qui gardait les choses intactes. Je retrouvais l'esplanade que Bruno et moi appelions la Syrie quand nous étions gamins. Parce qu'il restait deux rails et un chariot qui avait servi on ne sait quand à transporter les planches pour la construction. Non loin de là partait un téléphérique pour monter ses planches aux alpages, avec son câble en acier accroché à un mélèze que l'écorce avait englouti. Il l'avait oublié parce qu'elle ne valait rien, ma montagne d'enfance. Et c'était ce qui l'avait sauvée. Je ralentis le pas, comme le murmuraient les porteurs népalais en haute altitude. « Bistare, bistare ». Je ne voulais pas arriver trop vite. Chaque fois que je revenais, j'avais l'impression de revenir à moi-même, au lieu où j'étais moi et où je me sentais bien. À l'alpage, il m'attendait pour midi. Bruno, Lara, la petite Anita, qui n'avait pas un an, mais jouait déjà sur une couverture au milieu du pré, ma mère qui ne la quittait pas un instant des yeux. Elle dit « Tonton Pietro est arrivé, Anita, regarde !» et elle me la mit aussitôt dans les bras pour que nous fassions connaissance. La petite m'étudia avec méfiance, fit de grands yeux devant ma barbe, la tira et émit un son que je ne compris pas, rit de sa découverte. Ma mère n'était plus la dame âgée que j'avais saluée en partant. Mais elle n'était pas la seule à avoir changé. Tout l'alpage était plus animé que dans mes souvenirs. Il y avait des poules et des lapins, la mule, les vaches, les chiens, un feu sur lequel une polenta et un ragoût mijotaient, la table mise dehors. Bruno était si content de me voir qu'il me serra dans ses bras. Ce n'était pas dans nos habitudes, ce geste. Et tandis qu'il m'embrassait, je pensais, quelque chose a changé. Quand il m'eut lâché, je le regardais bien en face, en cherchant les rides, les cheveux gris, la marque des années sur son visage. J'eus l'impression qu'il en faisait de même pour moi. Étions-nous toujours les mêmes ? Puis il me fit asseoir à la place du chef et versa à boire. 4 verres à ras-bord de vin rouge pour trinquer à mon retour. J'avais perdu l'habitude de boire du vin et de manger de la viande. Et très vite, je me sentis ivre de l'un comme de l'autre. Je parlais à bâton rompu. Lara et ma mère se levaient à tour de rôle pour s'occuper d'Anita, jusqu'à ce que la petite commence à avoir sommeil. Et il y eut un signe, je crois, ou quelque accord tacite entre elles, et ma mère la prit dans ses bras et s'éloigna en la berçant. Je leur avais apporté en cadeau une théière, des petites tasses et un paquet de thé noir, et le repas terminé, je leur préparais un thé à la façon tibétaine, avec du beurre et du sel, même si le beurre d'alpage n'était pas aussi fort et rance que celui des yaks. Pendant que je mélangeais, je racontais qu'au Tibet, il faisait tout avec le beurre. Il le brûlait dans les lampes, l'étalait comme onguent sur les cheveux des femmes, en recouvrait les os pour les sépultures célestes. « Quoi ?» dit Bruno. J'expliquais alors que sur les hauts plateaux, il n'y avait pas assez de bois pour incinérer les cadavres. Le mort était dépouillé de sa peau et son corps laissé en haut d'une colline pour que les vautours le dépècent. Quelques jours après, on remontait et il ne restait plus que les os. Le crâne et le squelette étaient alors réduits en morceaux et mélangés avec du beurre et de la farine pour être redonnés aux oiseaux. « Quelle horreur !» dit Lara. « Pourquoi ?» demanda Bruno. « Non mais t'imagines, le mort là, par terre, et les vautours qui le déchiquettent petit bout par petit bout. »« D'accord, mais pourrir dans un trou n'est pas si différent, dit-il. Tu te fais manger dans tous les cas. » « Peut-être, mais au moins tu le vois pas, » dit Lara. « C'est même beau, » dit Bruno, « de se faire manger par les oiseaux. » Le thé, par contre, le dégoûta. Il vida sa tasse avec les nôtres et les remplit d'une grappa qu'il sortait d'une grande bouteille. Nous étions tous les trois un peu éméchés à ce stade. Il mit son bras autour des épaules de Lara et demanda « Et les filles de l'Himalaya, comment elles sont ? Elles sont aussi belles que dans les Alpes ?» Je dus prendre un air sérieux sans le vouloir. Je balbutiai quelques réponses. « T'es pas en train de virer moine bouddhiste quand même ?» dit Bruno. Lara, qui avait compris ce que cachait mon embarras, répondit à ma place. « Non, non, je suis sûre qu'il a quelqu'un. » Alors Bruno me regarda en face et éclata de rire, voyant qu'elle avait raison. Et moi, par réflexe, je cherchais des yeux ma mère, trop loin pour entendre quoi que ce soit. Plus tard, j'allais m'étendre à l'ombre d'un vieux mélèze, un arbre solitaire qui dominait les pâturages au-dessus des maisons. Je restais allongé, les yeux à demi clos, les mains derrière la nuque, à regarder les cimes et les crêtes du Grenon entre les branches et à me laisser gagner par le sommeil. Leur vue me ramenait toujours à mon père. Je pensais qu'en quelque sorte, sans le vouloir, c'était lui qui avait fondé l'étrange famille dans laquelle je me trouvais. Qui sait ce qu'il aurait pensé s'il nous avait tous vus ensemble autour de cette table? Sa femme, son fils, son autre fils de montagne, une jeune femme et une petite fille. Si nous avions été frères, pensais-je, Bruno aurait à coup sûr été l'aîné. C'était lui le bâtisseur, celui qui construisait des maisons, fondait des familles, créait des entreprises. Le frère aîné avec ses terres, son bétail, sa descendance. Moi, j'étais le plus jeune, l'enfant prodigue, celui qui ne se marie pas, qui ne fait pas d'enfant et qui erre à travers le monde sans donner de nouvelles pendant des mois, sauf pour débarquer les jours de fête et pile à l'heure du repas. Qui l'aurait pensé, hein, papa ? Sur ces divagations imprégnées d'alcool, je m'endormis sous le soleil. C'était Chantal Hébert sur Globule Radio 90.5 FM. Cet enregistrement est réalisé à l'attention de tous nos anciens en EHPAD ou à l'hôpital et tous les soignants qui les accompagnent. Merci à eux. Et cet enregistrement a été possible grâce à l'agence Jean de Cham à Chamonix.